Ici, c'était le tout dernier. Peut-être que vous avez déjà pensé en écoutant un de mes podcasts de plus en plus sporadiques que ça pourrait être le dernier, la dernière fois que vous entendez ma voix sur cette émission. Parce que je dois le dire, ça croise souvent mon esprit. J'y pense à l'occasion parce que je suis un homme occupé, parce que je pourrais vous énumérer un tas de bonnes et de très mauvaises raisons aussi pour arrêter. Mais c'est quelque chose auquel je pense. C'est sûr que si je le faisais, probablement, je le ferais pas comme maintenant. Vous ne l'apprendriez pas au début d'une émission. Vous l'apprendriez probablement quelques émissions avant que j'arrête définitivement. Mais j'ai déjà songé comme ça, tout simplement arriver, faire une dernière émission, tirer ma révérence. Et pourquoi? Ben parce que, vous pouvez vous imaginer, ça va faire 7 ans, ça va faire 9 ans, excusez, que je fais cette émission-là dans les prochains jours. Et il a coulé de l'eau sous les ponts, mes intérêts ont changé, ma vie a changé, ma vie personnelle, professionnelle, j'ai un enfant de plus, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent, puis simplement les intérêts pour continuer une émission et garder la passion, c'est extrêmement difficile. Et surtout quand les activités du quotidien changent, quand nos activités professionnelles aussi changent, évoluent, ça devient difficile de tenir le rythme. Vous savez probablement, je ne me rappelle même pas si j'en ai parlé, mais on a eu un bébé l'an passé, ma blonde et moi, plusieurs années après avoir eu notre garçon. Et ça aussi... ça fait en sorte que j'ai fait absolument aucune émission cette année, ce qui est absolument exceptionnel. Ceci dit, ça ne sera pas la dernière, et la dernière ne sera pas la prochaine émission non plus. J'ai rien de prévu. J'avais juste le goût de prendre le micro. J'avais juste le goût de parler dans vos oreilles et de vous dire qu'est-ce qui arrive en ce moment. C'est quoi mes intérêts, mes passions? Je ne sais même pas de quoi je vous parlais ou je vais vous parler. J'ai une vague idée, j'ai une bière à côté de moi et on part ça.
There's only us, there is no them.
Et oui, vous les avez reconnus, c'est mes bons amis de U2, qui sont venus à Montréal il y a quoi, une semaine et demie, deux semaines environ. C'était ma première fois, pourtant je suis fan depuis très longtemps, même depuis avant Joshua Tree. Je me rappelle avoir eu l'album Unforgettable Fire, il y a de cela assez longtemps avant que mes amis à l'école connaissent ça. J'avais la chance d'avoir des gens, des cousins plus vieux qui écoutaient ça, qui aimaient ça. Donc, ça a déteint sur moi. Et puis, depuis ce temps-là, ça n'a jamais arrêté. Ça m'a toujours un peu accompagné. La musique de U2, comme bien d'autres chansons, comme d'autres artistes, évidemment. Mais c'est quand même un groupe qui met à moi contemporain. Des fois, j'écoute la musique des Beatles, mais c'est pas ma génération, c'est la génération de mes parents. Tandis que ça, les albums, je les ai écoutés quand ils roulaient, quand ils tournaient à la radio. Donc voilà, il y a un petit quelque chose d'intéressant, j'ai un lien particulier avec ce groupe-là. Puis on avait des assez bons billets, on était un peu vraiment sur le côté, la façon que la scène était faite, c'était intéressant. Il y a quelque chose de spectaculaire, évidemment, un spectacle de U2, mais extrêmement dépouillé, c'est juste une guitare, une basse, un drum, puis une voix, puis ce qu'ils réussissent à produire avec ça, c'est un groupe qui est tight musicalement, qui est extrêmement soudé. Donc, c'est sûr que c'est une belle expérience aller à un show de U2. Puis la scénographie de ce spectacle-là est absolument remarquable. Ça m'en prend beaucoup pour me jeter à terre, mais il y a eu une couple de trucs, une couple d'interventions vraiment visuellement intéressantes. Évidemment, je peux pas commencer l'émission sans mon carburant de la semaine. Bien sûr, j'ai une bière québécoise, évidemment. C'est fait par les Brasseurs du Monde. Et ça s'appelle La Soifée. Ils font des séries de bières, en fait. La Soifée, c'est des séries de bières d'inspiration belge. Ils ont des IPA, donc des IPA avec différents grades. Donc, la série La Soifée, ils ont du bel, triple, quadruple. Puis, les IPA, il y a quatre puissances de IPA. Les IPA, c'est des India Pale Ale, des bières extrêmement amères. Mais très goûteuse et voilà. Et donc, ils ont des séries comme ça. Et j'ai acheté une caisse de 4 bouteilles de cette série-là. Donc, je vous débouche la quadruple qui est quand même la plus costaude à 11% d'alcool. Et oui, quel beau bruit! Ça sent très bon. Et une bière qui est assez brune, assez foncée, qui a un beau petit collet de mousse couleur caramel. Des odeurs de fruits confits, de prunes, tout ça. Oh, l'alcool est assez présent. Pas si amer que ça, un peu amer, mais c'est pas la saveur du houblon qui prédomine. Oh, puis en finale, ça goûte vraiment les bonbons caramel. C'est assez bon. je vous ai peut-être déjà dit précédemment que je fais à l'occasion de la bière, quoique j'en ai refait récemment, ça faisait ça aussi un an que je n'avais pas fait. On dirait que depuis que le bébé est né, les hobbies, les passe-temps ont pris un peu le bord, comme on dit. Puis, donc voilà, j'ai recommencé à en faire, puis plus qu'on en fait de la bière, plus qu'on en goûte, plus on devient critique aussi. Et moi, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est les bières anglaises. Quand on les achète ici à la SAQ, qui est bon pour nos amis européens, les magasins d'alcool sont des sociétés d'État. Donc, il y a un seul endroit pour acheter de l'alcool. C'est autre que du vin et de la bière. Ça qui est disponible à l'épicerie, évidemment. Donc, dans les SAQ, ils vendent aussi de la bière importée. Et il n'y a pas beaucoup de choix. Ce sont des parties de beaucoup de bières qui étaient jadis là. Donc, des bières plus grand public comme de la Heineken, ces choses-là. Mais avec ça, ben, ils sont disparus. Quelques bières anglaises et moi qui adore ça, je trouve ça vraiment triste. Donc, il y a quand même plusieurs brasseurs québécois qui brassent des bières d'inspiration anglaise, mais ce qui est plate, c'est que, et ce que je reproche, c'est que si on fait vraiment une bière qu'on dit une bitter ou une bière anglaise, une pale ale, il faut que ça soit fait comme une bière anglaise. Et c'est le problème de différents brasseurs. T'sais, si on dit une bière d'inspiration, mettons, inspiration belge, ben on s'entend que ça risque d'être différent d'une vraie bière belge. Tandis que si on dit bière belge ou bière d'abbaye, faut que ça ressemble à la vraie affaire. Et le problème avec les bières anglaises, c'est que trop souvent, on utilise des ingrédients de base qui sont trop différents ou qui ne viennent pas d'Angleterre. Tu sais. C'est sûr qu'il y a certains houblons qui est la plante utilisée pour amériser les bières. Donc, si y a certains houblons dont la même variété est produite en Angleterre, qui est la version classique, et on en produit aussi aux États-Unis, mais la version produite qui a été américanisée n'a pas exactement la même saveur, n'a pas ce petit côté anglais-là. Et trop souvent, ben, étant donné que c'est un peu plus cher, les houblons anglais, dû à notre proximité avec les États-Unis, ben, les gens utilisent des houblons américains. Ensuite de ça, ben, pour le grain de base, ben, ils utilisent du grain canadien. Pour les grains cristal, donc les grains plus foncés qui donnent la couleur et le côté un peu caramel à la bière, ben, ils utilisent souvent du grain belge parce qu'il est produit en plus grande quantité ou qu'il est moins cher, etc. Donc, à la fin, on se retrouve avec un produit qui n'a pas la même saveur du tout. Là. Tu sais, si on utilise toujours une substitution, un ingrédient, ça paraît pas trop, mais quand c'est l'ensemble des ingrédients puis que le seul ingrédient qui est la vraie chose et qui est la levure, ben il reste plus grand-chose d'un style de bière. Donc voilà, ça fait en sorte que la dernière bière que j'ai brassée très récemment et que j'ai absolument hâte de goûter, c'est une bière d'inspiration anglaise avec des grains anglais, des grains de spécialité anglais, des houblons anglais, une levure anglaise, évidemment. Les Anglais ont souvent des sels minéraux dans leur bière. Donc, j'ai ajouté les sels minéraux justement pour être un peu plus authentique. Et voilà, j'ai extrêmement hâte d'y goûter, mais c'est en fermentation. Je suis à veille de l'embouteiller et peut-être que je vous en déboucherai une à une prochaine émission. On essayera ça, vous allez voir. C'est vraiment très, très bon ce que je peux faire. Vu que ça fait longtemps que je vous ai parlé, je vais peut-être vous parler un peu de podcasting et ce qui se passe sur la scène du podcasting. Un peu au Québec, oui, mais aussi beaucoup à l'international. Et surtout, ce qui se passe avec les Anglais, ce qui se passe avec les Américains, pardon. Il y a comme une deuxième vague ou une troisième vague, en tout cas, bref, il y a un engouement pour le podcasting à différents niveaux. Et il n'y a pas juste un engouement, il y a aussi un phénomène de... On commence à trouver une façon de rentabiliser et on utilise des plateformes, donc, pour financer ces projets-là. Donc, il y a différentes choses, il y a un contexte qui fait en sorte que ça fonctionne et ça fonctionne de plus en plus. C'est sûr que c'est plus facile rentabiliser dans un marché américain qui est beaucoup plus grand que où est-ce que le podcasting a un taux de pénétration beaucoup plus grand. Aux dernières nouvelles, il y avait près de 30% des Américains qui disent avoir écouté un podcast dans au moins le dernier mois, ce qui est absolument énorme. Donc, il y a un peu tout ça. Il y a des nouvelles émissions qui sont sorties il y a environ un an et demi, si ma mémoire est bonne. Il est sorti le podcast Serial. Si vous ne l'avez pas écouté, allez écouter ça. C'est extrêmement bien fait. C'est un peu un spin-off de This American Life. This American Life qui est, une émission de la radio publique américaine. Et cette émission-là a fait un petit qui s'appelle Serial. Donc, le concept de This American Life, c'est de parler de plusieurs sujets et de raconter une histoire de... vraiment bien raconté autour de ça. Et là, ce qu'ils ont décidé, c'est suivre une histoire qui avait besoin d'être vraiment creusée. Donc, la suivre pendant plusieurs semaines. Et ça a été un phénomène. Donc, ils ont suivi une histoire de meurtre où est-ce que quelqu'un a été accusé et dit qu'il a été accusé faussement. Une histoire de meurtre d'adolescente qui s'est passée il y a vraiment plusieurs années, donc il y a environ plus de 15 ans. Donc, c'est pas juste l'histoire, c'est la façon que c'est raconté, la façon qu'on nous tient en haleine d'un épisode à l'autre. Et là, ce qui est arrivé avec ça, ça a eu tellement de succès. Ils en ont parlé dans à peu près tous les médias, que ce soit les médias imprimés, la télé, la radio plus traditionnelle, tout ça. Ça a fait en sorte que c'était en peu de temps le podcast le plus populaire, le plus écouté de tous les temps. Évidemment, il y a eu un phénomène de rentabilité de leur part et il y a eu d'autres émissions, d'autres podcasts qui ont suivi dans la foulée. Il y a comme un momentum, c'est un peu un hasard des fois, c'est que c'est pas juste que ça a eu du succès puis il y en a plein d'autres qui ont suivi, c'est qu'il y avait d'autres choses en préparation par d'autres gens. Il y a comme vraiment un momentum en ce moment. Donc, qu'est-ce qui est sorti plus récemment? Ben, l'automne passé, à peu près après ou juste un peu après qu'ait commencé Serial, est sorti le podcast qui s'appelle Startup. C'est un autre de This American Life qui a parti ça, qui a décidé de partir sa compagnie, sa startup de podcasting, et il a décidé de s'enregistrer et de suivre l'évolution de la création de sa compagnie. Donc, il y a eu une première saison, et par la suite, il y a eu une deuxième saison qui vient de se terminer. Je pense que c'est même aujourd'hui même que ça s'est terminé. Suite à ça, cette compagnie-là ils ont trouvé le nom en faisant le podcast au fil des semaines. Ils ont lancé maintenant deux autres podcasts. Donc, un podcast sur la technologie qui s'appelle Reply All et aussi The Mystery Show, qui est un autre podcast qui est sorti assez récemment. Je pense qu'il y a juste quatre épisodes, je pense. Et j'ai pas eu le temps, j'ai écouté le premier épisode, j'ai pas eu le temps encore d'écouter au complet. Parallèlement à ça, qu'est-ce qui se passe au Québec? Il y a une vague de podcasteurs absolument hallucinante. Il y a beaucoup de podcasts de jeux vidéo, il y a beaucoup de podcasts de technologie. Il y a beaucoup de podcasts sur la techno en général, sur les gadgets, sur la photographie. C'est absolument hallucinant, c'est très foisonnant. Le seul problème avec tout ça, c'est qu'il n'y a pas, et ce qu'on se rend compte, là, des fois j'échange avec certaines de ces personnes-là, c'est qu'il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas un élément central. Il y a des tentatives, un peu comme moi, il y a quelqu'un d'autre qui a sorti un répertoire. Il y a d'autres gars qui s'emploient à faire découvrir le podcasting. Ils ont une émission qui parle de podcasting. Mais ça, je sais pas, ça lève pas, ça prendrait des événements, ça prendrait d'autres choses. Puis, c'est sûr que, tu sais, je regarde ce qu'on a fait il y a 7, 8 ans, 9 ans avec nos rencontres de podcasters, avec les podcamps. Ça prendrait quelque chose de similaire à ça aujourd'hui, sauf que, évidemment, ça sera pas moi qui va faire ça. J'ai non seulement déjà donné, mais pas le temps en ce moment pour consacrer à ça. Donc, je vous conseille, je vais vous mettre des liens si vous voulez découvrir d'autres podcasts québécois. Il y en a une tonne, ça roule, c'est incroyable. Puis moi, je vous le conseille vraiment de découvrir d'autres podcasts, encourager ces gens-là. Je vous fais jouer une autre chanson de YouTube, justement de l'album The Unforgettable Fire, une de mes chansons préférées, puis je vous parle tout de suite après.
One man.
Et oui, Pride de U2. C'est drôle, quand je suis allé voir U2, moi, je vais voir des shows à l'occasion. Puis bon, c'est sûr que des fois, voir de la musique live, c'est très entraînant, tout ça. C'est pas toujours que y a vraiment un effet sur que la musique a vraiment un effet qui est plus que je suis content d'être là. Et là, il y a eu ça. Ça c'est arrivé comme ça. Ça m'est arrivé pas des tonnes de fois dans ma vie. Mais je me rappelle la première fois que j'ai vu Daniel Lanois à Montréal, qui était revenu après des années qu'il n'avait pas fait de show, des années qu'il n'avait pas fait d'album, tout ça, puis il est revenu à Montréal la première fois. Le plafond d'une métropolis voulait exploser tellement qu'il y avait de l'énergie dans l'air. C'était incroyable. Puis, il y avait un peu de ça au show de U2. Et, en tout cas, moi, ça a eu cet effet-là sur moi. De me replonger, tu sais, j'entendais les chansons, puis c'est bizarre. Pourtant, des fois, j'écoute du YouTube, puis je fais juste écouter, j'aime la chanson. Mais là, vraiment, de les voir live, ça me replongeait dans mes souvenirs d'adolescence. Et de jeune homme aussi. Quand j'étais étudiant au cégep à l'université, après ça, que j'ai commencé à travailler sur le marché du travail. Donc, il y a vraiment, les albums de U2 ont vraiment accompagné ma vie à différentes étapes. De quoi je vais vous parler? Ben, je vais vous parler un petit peu du service de Apple Music que j'ai juste essayé un peu, pas plus que ça encore. Je vais l'essayer un petit peu plus. Ceci dit, moi, je n'étais pas du tout abonné à aucun service de musique en continu. Puis, quand les 3 mois gratuits seront terminés, je ne suis pas sûr que je vais vraiment rester abonné à ça. On verra à l'usage, mais je ne suis pas nécessairement convaincu. Entre autres aussi, au niveau idéologique, ça ne paye pas beaucoup les artistes, les services de musique en continu. Et je préfère payer une fois, avoir ma musique, puis que ce soit fini après. Je suis un peu vieux jeu là-dessus, je dois dire. Pour bénéficier de ça, il faut faire ces mises à jour. Évidemment, ces mises à jour de OS 10, iTunes et de iOS. Quand on a la dernière version, c'est un peu magique. Ça s'installe tout seul, c'est là. Il y a des choses qui ont été héritées du service Beats Music. Vous savez peut-être que Apple avait acheté le service et les équipements de Beats. Il y a des choses qui ont été héritées de ça. Ça fait en sorte que, contrairement à d'autres services de musique en streaming, la façon de catégoriser est un petit peu mieux présentée ou plus conviviale. En tout cas, il y a plus d'options de choix, ce qui est quand même intéressant. Ceci dit aussi, les choix de musique qui sont présentes là, vous savez, iTunes, c'est la plateforme pour vendre sa musique sur Internet. Donc, si vous cherchez quelque chose, c'est pas mal sûr qu'il est là, contrairement des fois à d'autres services. Il n'y a pas juste des avantages, il y a aussi des désavantages, bien sûr. Mais moi, pour l'instant, j'ai pas encore assez joué dedans pour dire « Ah, il y a vraiment des gros désavantages. » Pour l'instant, quand on est habitué de fonctionner avec les produits Apple, ça se fait dans la même logique, tout ça. Évidemment, parfois, il y a peut-être un peu de latence, c'est-à-dire d'un délai avant que ça démarre. C'est pas comme quand la musique est résidente sur notre appareil, c'est sûr. On dit que, j'ai pas cherché pour des tonnes de choses, mais il y a des gens qui disent « Ah, le service de recherche est pas super. » Évidemment, c'est un service qui débute. Puis la barre est haute pour Apple. On s'attend à ce que ça soit top. Puis je pense que des fois, on devient de plus en plus exigeant envers Apple et on s'attend à une révolution à chaque fois. Moi, je compare à d'autres services de musique en streaming. Puis je me dis, mon Dieu, il n'y a pas nécessairement beaucoup plus ou beaucoup différent d'ailleurs, mais c'est quand même bien fait. Puis les services qui sont là, si ça avait fonctionné comme le Apple Music en ce moment, waouh, ça aurait été déjà très bien dès le départ. Donc, on critique un peu et on critique aussi, bon, l'omniprésence de Apple, mais veux pas, ben, on est un peu, je dirais, pris avec, mais en même temps, jusqu'à concurrence de mieux ou jusqu'à concurrence d'un endroit où est-ce qu'il y a vraiment plus de choix et une meilleure intégration. C'est surtout l'intégration avec tout ce qu'on a chez Apple qui facilite les choses. Il y a une section Connect que je n'ai pas vraiment voir où est-ce que, bon, on dit que les artistes peuvent entretenir un lien avec les personnes qui les suivent. Apple essaye un petit peu de ressusciter son pseudo-réseau social qu'il avait mis dans leur service de musique. J'ai encore des doutes à savoir si ça va vraiment fonctionner ou quoi que ce soit. C'est sûr, tout nouveau, tout beau, on essaye les trucs, mais en réalité, on verra à la longue. Bref, je vous conseille de l'essayer. Il y a des gens qui disent « Ah, ça vaut peut-être, ça vaut pas la peine de... » T'sais, si vous êtes déjà sur un autre service, ça vaut pas la peine. Ben, ça dépend. Moi, je vous dis honnêtement, bon, il y a une question de prix. C'est compétitif, mais il y a tellement de bonne intégration. Si vous avez déjà une grande bibliothèque de musique sous iTunes, vous avez déjà un iPhone, toujours de passer d'une plateforme à l'autre, d'une logique à une autre, tandis que là, ben, c'est super intégré avec tout ce qu'ils font déjà. Ben, moi, je trouve que ça vaut quand même probablement la peine, à tout le moins, d'essayer. C'est 3 mois gratuits. Allez faire un tour dans l'Odessa. Mettez à jour vos applications. Ceci dit, ben, la qualité sonore, évidemment, est impeccable. C'est du AAC, évidemment. Ceci dit, ça risque de faire exploser votre forfait de données. Moi, j'ai beaucoup de difficultés ces derniers mois. J'ai un forfait de données à 6 gigs, puis il explose quasiment tous les mois. Pourtant, j'ai pas l'impression tant que ça de regarder des trucs lorsque je suis pas connecté en Wi-Fi, mais quand même, c'est évidemment les Bell et les Fido et les Rogers de ce monde qui vont se frotter les mains plus que vous allez utiliser ces services-là. Oh wow, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait jouer, ce truc-là. Hey, tantôt, pendant que je vous ai joué une chanson de YouTube, j'ai lu sur la bouteille, puis je suis pas trop dans les patates. Ça dit que la bière que je bois, la plus forte, oui, riche et complexe, offrant des notes de pruneau, hein, des dattes, figues et raisins secs caramélisés, avec juste un soupçon d'épices, écoute. Écoutez, c'est quasiment ce que je vous disais tout à l'heure, en d'autres mots. Puis c'est le fun, à mesure qu'elle se réchauffe, il y a plus de saveur, tout ça. Puis moi, je la soupçonne assez fraîche, celle-ci. Je n'ai pas regardé la date, mais je pense qu'elle est quand même très, très fraîche. J'ai déjà goûté un petit peu plus vieille. Elle a passé quelques mois sur les tablettes. C'était un peu plus confit comme saveur. C'était vraiment extrêmement, extrêmement bon. Je vous conseille d'essayer ça, d'aller chez votre dépanneur préféré le plus vite possible. Je vais vous faire jouer une autre chanson de U2. Eh oui, c'est vrai. C'est le fun, cette chanson-là, parce que... quand je l'ai entendu, ça m'a rappelé la première fois que j'ai dansé collé avec une fille pour de vrai, là, quand j'avais une douzaine d'années. C'était sur cette chanson-là. Puis on avait des correspondants, puis c'était une petite Asiatique. Et puis c'était vraiment absolument charmant. Donc, je vous fais jouer ça et essayez pas de m'imaginer avec une petite Asiatique à 12 ans. Non, faites-vous vos propres images dans vos têtes.
rest in your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you.
Hey, oui, je suis de retour. J'allais faire un tour sur mon site. Écoutez, ça fait tellement longtemps que j'ai fait d'émissions. Je n'étais même pas retourné sur Québec Balado récemment. Je suis en train de me rendre compte que je pense même à la dernière épisode, au dernier épisode. Je vous ai peut-être même fait jouer de la musique de U2, Mea Culpa. Peut-être même la chanson, je pense que certaines chansons que je vous ai faites jouer tantôt. Mais c'est pas grave. ceci dit, je sais pas si je vous ai dit, je me suis acheté un drum l'année passée, un drum qui a plus de 50 ans, un Ludwig. de 1962 avec des morceaux qui sont un peu qui n'ont pas toutes les mêmes dates. Pourtant, le monsieur qui l'a acheté en 62 assure qu'il était neuf quand il l'a acheté. Donc, probablement qu'il a été assemblé à partir de différents morceaux de différentes époques dans la fabrique de chez Ludwig. Faut dire qu'à l'époque, la plupart des compagnies de musique, c'était un peu à la va comme je te pousse. Ils faisaient en fonction de la demande, tout ça. Faut dire que c'est un drum assez particulier, alors qu'à l'époque, il y avait souvent des bass drums de 20-22 pouces et même 18 pouces. Le mien fait 24 pouces comme un bass drum moderne. Et ça, c'est une vieille tendance genre des années 50. Fait que le bass drum, selon ce qu'on sait, serait antérieur à 62 et de beaucoup, daterait probablement d'autour de 1956. Tandis que le reste du kit daterait probablement, c'est ça, autour de 61-62. J'ai les cymbales originales, tout ça, donc c'est un beau kit. Il y a eu un peu de modifications avec le temps, surtout pour les pattes du bass drum, ce qui est un peu dommage parce que ça fait baisser un petit peu sa valeur. En même temps, le fait qu'il est très particulier, ça lui donne vraiment beaucoup de charme, si je peux dire. Donc, c'est vraiment assez sympathique kit. Je voulais vous parler un petit peu de qu'est-ce qui se passe avec les médias sociaux en ce moment, ma présence sur les médias sociaux, tout ça. Je suis un peu moins présent sur les médias sociaux en ce moment. Quoique, j'y vais souvent, je visite souvent, mais moi personnellement, j'interagis un petit peu moins. Donc, je suis vraiment un peu plus observateur, je suis moins impliqué. Quoique, bon, des gens vous diraient que je publie souvent sur Facebook, mais quand même, pas tant que ça. J'ai pas délaissé complètement Twitter, mais je m'y implique beaucoup moins. C'est rare que vraiment que j'ai beaucoup d'échanges sur Twitter, alors que c'était ma plateforme de prédilection auparavant. Il y a un peu des choses qui ont changé. La dynamique est différente. Les gens chialent beaucoup, se plaignent beaucoup sur les réseaux sociaux. Et ça me plaît moins. C'est sûr qu'on peut choisir de suivre ou de ne pas suivre les gens, puis de masquer les publications des gens qui vous intéressent moins. Sauf que, en même temps, c'est difficile parce que il y a toujours à un moment donné quelqu'un qui, d'habitude, est très ouvert d'esprit, qui va se mettre à chialer une journée. Donc, c'est un peu ça, puis ça dicte un peu la vie. Auparavant, quand j'ai commencé sur les médias sociaux, les gens disaient que ça n'aura jamais d'influence, c'est ça. Puis là, aujourd'hui, c'est le contraire. Il ne faut pas rien dire ou rien faire qui va te déranger sur les médias sociaux. Puis s'il y a des réactions, les gens agissent ou réagissent, puis ils prennent des décisions sans réfléchir. Je trouve même les entreprises, même les médias, si quelqu'un, on découvre que quelqu'un a dit quelque chose ou fait quelque chose dans le passé, on va le congédier tout simplement. C'est un peu ridicule, là, comme si les gens ne pouvaient pas accepter que tout le monde n'est pas parfait, puis des fois, il y a des gens qui font des erreurs, puis ça arrive, là, c'est un peu ça. Bon, je dis pas qu'il faut pardonner n'importe quoi, n'importe qui, et accepter tout, mais il faut faire aller son jugement, puis le problème en ce moment, c'est qu'on est tout le temps en mode réaction, on réfléchit pas. Ça, je trouve ça extrêmement dommage en ce moment, de voir ça. Puis auparavant, c'était les gens qui agissaient comme ça. Puis là, maintenant, c'est les marques, c'est les compagnies, tout ça. Tout le monde ne réfléchit pas, fait juste réagir. Puis tout est rendu lisse. Faut pas déranger, faut pas dire rien. T'sais, faut pas que les gens qui ont une grande tribune ne disent rien. Alors que tout le monde, monsieur, madame, tout le monde sur Internet se permet les pires grossièretés. Ça aussi, ça me dérange un peu. Il y a une certaine, pas une morosité, mais un certain négativisme. Surtout au Québec, je trouve, on a tendance à penser que il y a juste au Québec que c'est de même, puis il y a beaucoup de. Tu sais, de gens, puis c'est drôle, c'est souvent des gens qui sont très de droite, qui pensent que ben, il y a juste au Québec qui sont contre tout ce qui est justement services sociaux, qui sont contre tout ce qui est nationalisation. Donc, on a la compagnie Hydro-Québec, on a nationalisé l'hydroélectricité, l'électricité au Québec. Puis là, ben, ça nous coûte cher, mais ben oui, mais c'est, on a les tarifs d'électricité les plus bas en Amérique du Nord, puis on voudrait privatiser parce que, ah oui, quand c'est privé, ben il y a une concurrence, puis là, ben ça fait baisser les prix. On n'a qu'à regarder ce qui se passe avec le pétrole, puis je pense que c'est pas nécessairement le cas. Donc, c'est un peu ça, il y a beaucoup de gens comme ça, un peu, c'est ça, un peu de droite. J'ai rien contre la droite, j'ai rien contre la gauche. Moi-même, je suis pas très de gauche ni très de droite. Au contraire, je suis pour la libre entreprise. Mais je suis aussi pour que, justement, une partie de ce qu'on gagne serve à aider collectivement la société et que chacun fasse sa part. Puis je trouve ça absolument normal. Donc, je suis une bizarre de bébite pour bien des gens parce qu'ils ont de la difficulté. Ils pensent que je suis de très de gauche alors que c'est pas nécessairement le cas. Je suis pour, pour l'entreprise. Mais d'un autre côté, je suis juste pour finalement le gros bon sens. qu'on réfléchisse à ce qu'on fait et qu'on fasse les choses intelligemment dans la vie. C'est simplement ça. Laissez-moi prendre une gorgée, qui est la dernière d'ailleurs. C'était très bon, écoutez. Je l'ai fini assez rapidement. C'est comme du bonbon, ce truc-là. Pendant la dernière chanson, je voyais que j'étais pour terminer mon verre. Fait que je suis allé me chercher une autre bière. Je n'avais pas prévu ça, mais vous aurez ça pour une première fois, je pense. Un deuxième carburant de la semaine, qui est l'assoiffé. Tantôt, j'ai bu la quadruple. Maintenant, c'est la triple. L'autre, c'était une quadruple de 12. Celle-là, c'est une triple 10, qui est à 9,2% d'alcool. Et je vous ai débouché ça. Et juste à déboucher, c'était pas très près de mon nez, mais c'est incroyable les arômes d'épices qui sont sortis de là. Je vais verser ça. Et là, il y a des gens qui vont dire que c'est un sacrilège, que... Et c'est vrai, j'aurais dû boire celle-ci avant l'autre. On boit la bière la plus douce et on va vers la plus forte, hein, comme les vins, tout ça. Mais c'était pas prévu. Et quand c'est pas prévu, ben c'est pas grave. Celle-ci est blonde avec des reflets roux, tandis que l'autre, on voyait pas à travers. C'était très foncé, c'était très brun. Et celle-là est plus pâle, le collet de mousse est plus mince aussi, et très blanc. Et il y a des arômes d'épices, ça sent un peu comment je pourrais dire, les biscuits pain d'épices. Et ça goûte ça. Oh, c'est très sucré, c'est très surprenant. Une bonne rondeur. Ça goûte les fruits aussi. Oui, c'est vraiment assez surprenant. Oui, étant donné que l'alcool est moins présent, le côté sucré ressort vraiment plus. Mais c'est vraiment très bon. On dit arôme d'agrumes, confit et de fruits jaunes mûrs. Saveur soyeuse, sucrée, s'agrémentant d'une finale douce, quasi mielleuse, oui, très mielleux, d'ailleurs. Et c'est très, très bon, oui. Ceci dit, ben pour terminer, je vais vous parler un petit peu de où est-ce que je suis en ce moment. Oui, j'ai une fille de qui a à peine un peu plus qu'un an. Et professionnellement, ben, j'enseigne toujours. J'enseigne le graphisme, le design graphique à un collège ici au Québec, au sud de Montréal, à Sherbrooke. Je dois faire un peu plus d'une heure de voiture pour me rendre là, ce qui est assez demandant. Je fais quand même des contrats avec des clients. Et ce qui est paradoxal, c'est que je travaille plus, je prends moins de clients. Donc, évidemment, j'ai un emploi d'enseignant. Donc, je ne peux pas me permettre de prendre des projets à l'appel. Donc, je prends moins de projets, j'ai peu de clients, j'ai très peu de clients. Sauf que ce qui est paradoxal, c'est que les projets sont de plus en plus gros. Donc, ça fait en sorte que je dois faire travailler des pigistes toujours. Certains des projets sur lesquels je travaille, ben, il y a quoi? Il y a 5, 6, 7, 8, 12 personnes qui, au fil du temps, travaillent sur le projet. Donc, ça fait un peu de gestion. Puis ça aussi, je suis obligé de faire de la gestion de projet par des gens, parce que moi, je peux pas parler aux clients à tous les jours, une heure, deux heures par jour, écrire des courriels, tout ça. Fait que je fais faire ça, puis je suis un peu un chef d'orchestre, puis je réponds à des courriels importants une fois de temps en temps, puis je fais du suivi le soir, puis tout ça. Puis finalement, je fais évidemment de moins en moins de graphisme. J'ai de moins en moins les mains dedans, dans le faisage. Je suis beaucoup plus dans la stratégie, beaucoup plus dans les idées. Beaucoup plus, justement, quand il y a des rencontres avec les clients, ben c'est moi qui se présente de temps en temps. J'aime beaucoup ça, je dois dire. Des fois, je réfléchis toujours à savoir est-ce que je me consacre uniquement à l'enseignement. Parce que des fois, même si j'essaie de bien m'entourer puis faire en sorte que d'avoir un équilibre, c'est quand même demandant tout ça. Moi, j'ai des standards de qualité qui sont extrêmement, extrêmement élevés. Autant de ma part, autant de la part de mes collaborateurs. Les collaborateurs, évidemment, me coûtent cher, mais je dors bien la nuit et je suis satisfait du travail qui est fait. C'est ça aussi. Je suis à un point où est-ce que j'ai beaucoup de demandes. Des fois, je me pose la question à savoir si je devrais seulement me consacrer à l'entreprise ou bien que je me prenne des associés. J'ai déjà été échaudé à deux reprises d'avoir pris des associés. C'est pour ça que j'hésite, en fait. Et la difficulté, ben, c'est de trouver une personne, une chargée de compte qui a juste assez d'expérience, qui connaît bien un peu tout et qui peut faire un bon suivi. C'est ce que ça me prendrait, mais c'est difficile de trouver la perle rare et trouver une personne qui connaît tout ce qu'il y a besoin de savoir à propos d'un peu tout, à propos de branding, à propos de web, à propos de médias sociaux, à propos de communication corporative. Je fais aussi encore à l'occasion du design environnemental, c'est-à-dire des designs d'espace, de signalisation, tout ça. C'est quelque chose, tu sais, je fais des choses, j'ai acquis beaucoup d'expérience au fil du temps sur des projets j'ai eu la chance de travailler sur des projets d'envergure. Ça fait en sorte que, tu sais, personnellement, j'ai un bagage qui est très, 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 très large et je suis à l'aise de faire, moi personnellement, faire tout ça ou de superviser du travail fait par différents designers dans différentes disciplines. La seule chose, c'est de trouver quelqu'un, un chargé de projet qui a cette diversité-là, cette polyvalence-là, ou qui est capable de s'adapter, qui apprend vite, c'est pas évident. Des fois, je me dis que ça devrait être juste moi qui fait le suivi. Donc, je réfléchis à tout ça. J'ai différentes idées, différentes choses sur lesquelles je travaille en ce moment pour remédier à tout ça. Puis, j'ai du fun, je dois dire. J'ai du fun à faire ça. J'ai des collègues enseignants qui sont extrêmement bons, extrêmement compétents, mais qui ne font qu'enseigner. Et j'aurais de la difficulté à juste faire ça. Moi, personnellement, je trouve, pour être bon enseignant, moi, personnellement, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de travailler pareil. Et voilà. Donc, je vous tiens au courant de tout ça. Ceci dit, je m'amuse toujours sur les médias sociaux. Je m'amuse toujours à faire du web. Puis, justement, ça va être les 9 ans de Québec Balado. Avant le 10e anniversaire, je devrais mettre à jour le site web pour qu'il soit beaucoup plus actuel, beaucoup plus beau, qu'il soit responsive. Je casse les oreilles à mes clients de faire du web responsive. Je leur en fais, je leur pousse à travers la gorge à l'occasion. Et d'un autre côté, mes sites personnels ne le sont pas nécessairement. Je suis un cordonnier extrêmement, extrêmement mal chaussé, mais je sens bien mes clients. Donc, je vous laisse avec une chanson, puis j'espère vous parler bientôt. Ciao. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're the same. One love, one life. When it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. Have you come?